Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 27e épisode de Torréfaction, notre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu. Bonjour Caf.
Salut Pascal.
Est-ce que ça va bien?
Bah écoute, moi ça va, toi ça va?
Par où je commence?
Non, tu dis que ça va, les gens ça
oui,
les intéresse
voilà.
Pas.
Vrai, ça va, on est décalé, pas d'horaire, fatigué, tout ça comme d'hab en fait.
Parfait, tout va bien.
Voilà, alors on va commencer tout de suite avec du gaming et oh, surprise, on va parler de PUBG.
Ouais, j'avais envie. J'avais envie et vous pouvez rien faire et voilà. Non, c'était juste pour dire que si vous avez raté les serveurs de test, c'est dommage car ils vont fermer tout bientôt.
Et
ils ont été prolongés jusqu'à encore quelques heures. Donc je pense que c'est déjà trop tard en fait. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais qu'est-ce qu'on a pu y apprendre? Bah, c'est les serveurs de test de la version 1.0 qui va arriver sur le live, donc la version normale, et qui va sonner l'arrivée de la vraie version qu'on va sortir de la de toute cette phase de pré-lancement, si tu veux.
Enfin, la version release.
Voilà, la version release. Et c'est une excellente surprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont retouché plein de trucs que... Alors, j'avais pas tout suivi, je savais pas que c'était prévu. Je sais même pas si c'était déjà annoncé. Mais moi, les deux trucs que j'attendais, c'était quelques petites retouches de la map et surtout le vaulting, enfin donc la possibilité d'escalader, de grimper sur des éléments du décor, etc.
J'ai vu ça fonctionne plutôt pas mal en plus. Hein.
C'est mortel, en fait. C'est super bien fait. Et franchement, j'étais hyper inquiet. Hein. Je pensais que ça allait être un petit peu chiant parce que bah quand tu allais commencer à monter un muret par exemple, tu vois un mec, j'avais peur que par exemple l'animation soit obligée de se dérouler en entier, que tu sois un pigeon en fait tout bêtement. Pas du tout, tu peux arrêter en appuyant sur le bas, tu vas pouvoir stopper tout de suite l'animation, redescendre de l'autre côté du muret, faire genre hop je vais rester
non,
là.
Non, j'y vais pas.
Exactement. À côté de ça, tout est hyper fluide, automatisé, c'est-à-dire que quand tu montes en fonction de la hauteur, l'animation est bien change, la fluidité du perso est vraiment respectée et c'est vraiment cool. Et à côté de ça, ils ont changé plein de trucs dans l'interface et en bien, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau HUD, l'indication de la boussole en haut de l'écran est beaucoup plus lisible.
J'ai vu qu'ils avaient rajouté des numéros sur les joueurs aussi.
Sur les joueurs, ouais.
Et coups,
ça, les numéros, on s'en fout un peu, mais du coup, tu vois tout de suite qui est où. Mmh. T'as des codes couleurs, en fait, sur la carte, tu vois vite où sont planqués tes potes. Mmh. C'est plutôt cool pour voir, quand tu joues avec Salut Spy, des mecs qui partent dans la pampa tout seuls. J'ai des noms. On a des gens sur Geekzone qui ont pas bien compris le principe de team, en fait. De jeu d'équipe quand tu ne joues pas en solo. Et en plus, là, je parlais de notre ami Spy, mais c'est pas le pire, en fait. Lui, il est rigolo. Il aime bien se mettre dans les buissons. C'est son truc.
D'accord.
Mais à côté de ça, donc, il y a vraiment plein de petites retouches qui changent le feeling du jeu. Les voitures font plus des bruits de tondeuse à gazon. Maintenant, la Dacia a un vrai bruit de vieille caisse en train de crever. C'est vraiment plutôt bien fait. Ils ont changé la physique de plein d'éléments. La balistique a été remodifiée. Bon, il reste très clairement encore plein de boulot. Faut pas rêver. C'est une 1.0. Donc, en software, on sait aussi ce que ça veut dire. C'est que le début du commencement de la release, il va y avoir du patch à gogo. Parce qu'on attend des nouvelles maps. Il y aura plein de trucs à faire. Mais en attendant, ce jeu qui a donc dépassé les 20 millions de ventes, j'ai arrêté de compter. Je sais plus à combien on en est là. C'est n'importe quoi. Bah, il va continuer d'engranger les ventes parce que on va atteindre un niveau de polish et de finish que j'avoue que je n'attendais pas. Et que cette 1.0 sent très très bon en termes d'optimisation diverse. Il continue d'optimiser à tir larigot, à rajouter des choses anti-cheater. C'est le plus important, je pense, pour ceux qui jouent déjà au jeu. Il n'y a rien de plus pénible que de se faire insta headshot par un cheater planqué dans un coin que t'as pas vu. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. On vous tiendra au courant sur la qualité de la release finale. Ils ont encore des problèmes de stabilité de serveur, etc. Mais ça sent très bon et ce n'est pas un succès usurpé, ça fait plaisir.
Eh ben écoute, très bien, moi je vais revenir y jouer dès que j'aurai fini de boucler mes pages. on sait quand ça sort la version 1.0 officiellement ou pas?
Non, on n'a pas de date exacte, mais c'est d'ici la fin de l'année là, donc c'est incessamment sous peu. Je pense qu'ils vont attendre la map désert sur la version PC, sachant qu'ils vont essayer de synchroniser la 1.0 PC et la 1.0 sans la map désert. Sur Xbox One.
D'accord. Ok, eh ben on continue dans le gaming avec c'est Black Friday, donc c'est le moment de dépenser vos sous.
Bah voilà, et puis de rajouter des jeux sur les piles des trucs que vous jouerez pas.
ou que pas vous... du tout de quoi tu parles.
Tu vois, là, t'en as déjà plein derrière toi que tu n'as pas fait, ou quand tu regardes dans ta petite liste Steam, tous ces jeux que tu n'as jamais lancés.
Mec, je joue plus, j'ai plus le temps, j'ai 500 jeux, j'ai plus de 500 jeux dans ma librairie Steam, c'est n'importe quoi.
T'en as plus que moi, je crois, en plus, en tout cas, c'est vraiment super grave. Moi, j'ai plein de jeux à terminer ou à avancer, surtout depuis que j'ai acheté une PS4, j'ai encore plein de jeux si tu veux de côté, comment dirais-je, en ce moment il y a un problème qui s'appelle PUBG dont je viens de parler. Il y a des sujets qu'on maîtrise mieux que d'autres, hein, c'est bizarre ça. Et du coup bah il faut que je me force à me remettre dans Yakuza 0 par exemple sur... mais il y a des très bons trucs. Et là qu'est-ce qui se passe? Et ben donc comme c'est Black Friday, les promos s'enchaînent, on a des promos un peu partout. J'ai fait une petite liste dans la news Black Friday dédiée sur Geekzone, vous avez le lien sur la news qui accompagne ce podcast, vous connaissez la chanson. En revanche je voulais juste parler et mettre en avant un de ces jeux qui s'appelle Hellblade Senua's Sacrifice, qui est en promo partout, et je vous conseille du coup de le prendre sur Good Old Games, GOG.com, ou sur Steam si vous avez vos petites habitudes. C'est un titre qui en fait a cartonné. Au moment de la sortie, je vais pas vous mentir, je suis complètement passé à côté.
Ben moi, je sais toujours pas ce que c'est en fait, pour être tout à fait honnête. Donc,
c'est un titre avec de la baston, mais c'est surtout une plongée dans l'univers d'un personnage principal qui est un peu bizarre puisque c'est une femme et qu'elle a des petits problèmes mentaux.
D'accord.
Tout ça à sauce mythologie nordique, mais en vrai, c'est une réflexion sur, ça va peut-être un peu loin, mais c'est réellement un jeu atypique puisqu'on n'a jamais traité les déséquilibres mentaux de cette manière-là dans le jeu vidéo. Toutes les reviews en parlent, ça va toucher la dépression. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte dans le cadre de ce personnage-là, avec des retours de joueurs vers les développeurs qui sont juste hyper intéressant, mais des trucs lourds, graves entre guillemets, avec des personnes qui envoyaient des emails aux devs en disant avec mon père j'ai toujours truc qui comprenait rien et machin, il m'a saoulé, grâce à votre jeu j'ai enfin compris ce qu'il vivait et je me suis réconcilié avec lui, etc. Donc ça va super loin. Du coup il vaut 22€ je crois en promo. C'est un jeu qui est relativement court, il fait 6 ou 7 heures je crois, et il a été vendu Day One à 30€. Donc en fait, si tu veux, le Ninja Theory savait très bien que son jeu, c'était pas un truc qui prenait des heures et des heures et des heures, donc ils ont un peu fait au poids, tu vois. Et ils ont fait une réalisation incroyable par rapport au tarif. Donc du coup, en fait, une impression hyper positive quand tu viens d'acheter le jeu. Et ça a cartonné grâce à ça. Ils ont donc dépassé les 500 000 ventes. Et ils ont gagné de l'argent, et il faut savoir que c'est 3 ans de boulot pour une toute petite équipe de 20 personnes. Quand tu vois le résultat à l'écran, t'hallucines, parce que c'est vraiment impressionnant. L'actrice qui a fait toute la motion capture pour Senua's, elle a fait un boulot de ouf. Et je vais vous mettre un deuxième lien sur cette petite partie dans la news associée, qui est la vidéo justement qui fait un peu le bilan de ce jeu. Il y a le Ninja Theory avait fait toute une série de vlogs pour expliquer le développement, et le dernier épisode revient sur les ventes, les problèmes, etc. C'est hyper intéressant.
D'autres trucs à suggérer pour Black Friday, en dehors de tout ce qu'on balancera dans le thread, évidemment?
Moi, je dirais le plus important, c'est qu'il y a des t-shirts Geekzone pas chers.
C'est vrai.
Il y a 15%. On va s'arranger. Mais effectivement, il y a 15% sur la boutique Spreadshirt jusqu'au 27 novembre, avec le code SALE2017. Vous l'avez dans la news aussi. Comme ça, ça vous permet d'acheter votre petit mug tranquille avec un prix préférentiel.
Et soutenir le site.
Évidemment.
Moi, du côté du Black Friday, c'est pas du gaming, mais je voulais en parler quand même, et puis ça fera la transition avec les apps. Rappelez que le Black Friday, c'est l'occasion pour toutes les boîtes qui produisent des VST, des VSTi, hein, donc des effets, des instruments virtuels, généralement font des grosses promos. Chaque année, c'est un peu le moment où la carte bleue souffre aussi du côté des plugins. Il y a 50% chez XLN, 80% chez Plugin Boutique. Ils font aussi des flash sales à 1€ sur certains produits, donc faut vraiment suivre le truc au jour le jour. Le bon plan pour suivre tout ça, je vous recommande d'aller sur un petit blog qui s'appelle record.org, je vous filerai le lien exact. C'est un blog qui a été monté en 2005 et qui est spécialisé dans tout ce qui est actu de la musique assistée par ordinateur, donc c'est là où vous allez avoir toutes les dernières news, les dernières mises à jour, les dernières promos, donc justement en l'occurrence pour le moment avec le Black Friday. Donc c'est l'occasion de reparcourir un peu tous les petits tests de VST que j'avais fait sur Geekzone, et s'il y a des produits qui vous ont plu à l'époque mais qui étaient peut-être un petit peu trop chers, et ben allez jeter un coup d'œil, il est fort possible qu'ils soient en promo en ce moment. Merci le Black Friday, qu'on aime ou pas d'ailleurs. On va rester dans les apps avec Proton.
Alors Proton, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que c'est.
Oui, c'est un client mail sécurisé, c'est ça?
C'est ça, avec un chiffrement de bout en bout, etc. qui est donc hébergé en Suisse. C'est une société suisse avec des petites lois qui vont bien. C'était à l'époque où on disait Google va lire vos mails, tout ça c'est mal. Et donc oui, mais bon, bah, il restait un problème, c'est qu'ils n'avaient pas de gestionnaire de contact super sécurisé. Ils viennent de rajouter ça dans leur version 3. Quelque chose. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous fait un gestionnaire de contact complètement crypté. Je sais que ça énerve les gens quand on dit crypté.
Alors on le dit.
Alors on le dit parce que j'aime bien vous embêter. Pourquoi c'est important? Non, blague à part, c'est dans l'optique de la protection des sources pour les journalistes, etc. Mm-hmm. Pour que les gens je sais pas, arrive à avoir accès à ton compte par l'opération du Saint-Esprit. Même ça, ils l'ont pas, par exemple. Tu vois, le gestionnaire est encore à part et chiffré à côté, etc. Donc, ça fait une étape de plus à franchir. Si vous aviez pas du tout regardé ce client web mail, bah, regardez, jetez un œil, c'est vraiment pas mal. C'est pas mon préféré, mais en termes de fonctionnalité, il offre des trucs qu'on retrouve pas forcément ailleurs, voire pas du tout. Et ils ont un peu plus de 5 millions d'utilisateurs actuellement. Ça m'empêche pas d'utiliser Fastmail, mais c'est un produit qui, on va dire, pour certaines catégories de personnes avec des boulots un peu touchy, bah, c'est plutôt bien de le connaître, quoi.
Voilà, Proton, donc, avec un gestionnaire de contact. On vous filera les liens dans la news, comme d'habitude. On va faire vite 3 petites news app. Je voulais commencer par WriteMonkey, qui est passé en version 3. Alors, WriteMonkey, j'en ai fait une petite news sur Geekzone cette semaine. C'est un éditeur de texte orienté sans distraction, comme on dit. Donc, c'est minimaliste, hein, qui existe depuis 2006 sur Windows et qui était exclusivement réservé à Windows jusqu'ici. Le développeur a décidé de tout reprendre de zéro. En fait, il est reparti from scratch, comme on dit, pour cette nouvelle version 3.0. Et ce qui lui permet, du coup, de porter facilement l'application sur OS X et sur Linux. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le soft s'étend à de nouvelles machines, tu vas pouvoir l'utiliser aussi sur Mac maintenant. Alors bon, on vous refera pas le topo, hein, c'est un éditeur de texte, comme je disais, distraction free, comme ils disent, qui est compatible avec le Markdown, qui permet donc de vous concentrer sur votre travail, de bosser avec une interface vraiment pour le coup ultra minimaliste, pas beaucoup d'options de mise en forme, de mise en page, etc. en dehors du Markdown, donc c'est vraiment pour faire du texte limite brut. Ça sent encore un petit peu la peinture fraîche, hein, la version 3, là, elle est en bêta 4, donc il y a encore quelques petites pétouille, on va dire, mais c'est relativement utilisable et stable. Et voilà, il manque encore quelques fonctionnalités qui faisaient partie de la V2 et qui devraient normalement être réintégrées très bientôt d'après le développeur. Je vous propose d'aller tester si vous cherchez un éditeur du style, et puis surtout si vous êtes sur Mac ou Linux et que vous n'aviez pas encore pu tester WriteMonkey, c'est l'occasion ou jamais. La version est franchement utilisable. Il y a vraiment rien de
grave. Et c'est gratos.
C'est vrai, j'oublie de le dire, le plus important.
C'est gratos. En fait, le business model est hyper simple. C'est que le produit est gratuit. Il va y avoir des plugins qui vont ajouter des fonctions avancées qui ne seront clairement pas utiles à tout le monde, mais les gens qui vont avoir l'utilité de ces trucs-là seront super intéressés, et ça sera payant.
Ouais.
Et c'est une très bonne idée, puisque du coup, si vous êtes intéressé, c'est qu'il y a peut-être moyen que vous mettiez la main au porte-monnaie, quoi.
Voilà, exactement. Je vous renvoie sur la news pour les détails, et puis sinon, téléchargez-le, c'est gratuit, essayez-le, et si ça vous convient, foncez. On reste dans les apps avec une petite news rapide. Spotify continue de racheter à tour de bras, c'est très très étrange. Moi, je continue de regarder ça de loin avec quand même une certaine suspicion. Ils ont racheté une autre start-up suédoise lancée en 2015 qui s'appelle Suntrap. Suntrap, je sais pas si tu connais, c'était une station de travail dans le cloud. En gros, c'est un peu ce qu'avaient fait nos amis d'Homeforce, si tu te souviens, avec Home Studio.
Ah oui.
Voilà. Donc l'idée, c'était d'avoir un studio virtuel dans le cloud et de pouvoir donc du coup collaborer plus facilement avec les gens qui sont loin de toi. Par exemple, si ta chanteuse est à l'autre bout du monde, tu peux bosser en direct dans le cloud avec elle sur un track. D'accord. Et ça, c'était plutôt cool. Alors, on sait pas trop pourquoi ils ont racheté cette boîte. C'est pas la première acquisition du genre qu'ils font depuis le début de l'année dernière. Ils avaient déjà acheté une autre boîte qui s'appelait Econest pour 60 millions, qui était un projet qui émane du MIT, qui était une plateforme, comme ils appellent ça, d'intelligence musicale. Donc en gros, c'était un truc qui permettait de faire de l'analyse de patterns dans la musique, de conseiller, de faire des recommandations.
Il y a plus de logique.
Il y a déjà plus de logique, effectivement, mais alors le studio virtuel en ligne, là, pour le coup, je vois pas trop. Je sais pas si toi t'as un avis sur la question.
On va pouvoir faire des sonneries pour nos téléphones.
Peut-être. Faire des remixes.
Ah mon dieu. Enfin, ils auraient pas eu besoin de ça, je pense. Mais c'est très bizarre, ouais.
Voilà. Donc, 30 millions de dollars à peu près pour ce qu'on pourrait qualifier de Google Doc de la musique. Donc, Suntrap rachetés par Spotify, et Spotify continue d'acheter des trucs alors qu'ils sont toujours pas rentables. Enfin, un jour, on m'expliquera le business model de cette société, je le comprendrai.
On pourrait parler de Uber et ça va te faire du mal. Mais parlons pas de ça,
enchaînons. Non, parlons pas d'Uber. Enchaînons.
Parlons des boîtes qui meurent.
Voilà, une autre mauvaise nouvelle. Gibson Brands, donc, qui possède la marque Cakewalk. Alors, Cakewalk, pour ceux qui connaissent pas, c'est une des grosses marques de séquenceurs de DAW, en fait, de Digital Audio Workstation dans le paysage actuel avec les Cubase et compagnie. C'est fini. La Gibson Brands, qui avait racheté la marque en 2013, a annoncé que, après 30 ans, ils mettaient la clé sous la porte. C'est terminé. Ils vont continuer, en fait, d'assurer le suivi, donc, parce qu'il y a tout un système de serveurs avec accès à des assets et puis aussi accès à des validations des clés pour faire fonctionner les softs. Donc ça va continuer de fonctionner. Les apps vont continuer de fonctionner. En revanche, elles seront plus mises à jour. Donc, clairement, on peut déclarer que le produit est mort.
Elles vont pas fonctionner longtemps, les apps.
Voilà. Puis là aussi, mauvaise nouvelle, pour ceux qui utilisaient Cakewalk. Donc, il va falloir trouver une solution alternative. Je recommande Reaper toujours. Mais c'est dommage de voir que, des produits quand même emblématiques. Moi, je me souviens que j'ai été bercé avec les Sonar et compagnie, qui étaient des séquenceurs vachement bien. Bref, il y avait un paquet de choses chez Cakewalk. C'est dommage de voir une marque comme ça mourir. C'est une page qui se tourne et ça fait toujours une petite larme.
Ah ouais, mais non, regarde. Un jour, Cubase va mourir et plein de gens seront contents.
De toute façon, je m'en fous, je les utilise pas. Voilà. Bref, on va passer du côté des bonnes choses avec la culture et des bonnes nouvelles culture et puis de nouvelles Marvel en l'occurrence. D'abord avec The Punisher qui est sorti vendredi dernier, si je dis pas de bêtises, sur Netflix.
Je crois que c'est ça.
Moi, j'ai pas encore eu le temps de voir plus que le pilote. J'avais été assez mitigé sur le pilote, mais comme souvent avec les séries Netflix, c'est difficile de se faire un avis sur un seul épisode. Toi, tu l'as vu en entier et est-ce que ça vaut le coup ou pas?
Alors, je suis hyper étonné. Alors, no spoil, paniquez pas les gens.
Non, moi je l'ai pas vu donc c'était intérêt.
C'est ça. Je l'ai maté en 3 fois, donc déjà c'est rare pour ce qui me concerne, parce que je suis pas un méga fan de binger les trucs, ça m'arrive relativement rarement. Et là, j'avoue, j'ai bien accroché, alors qu'à la base, le Punisher dans Daredevil, j'avais pas aimé vraiment Daredevil, je suis pas méga fan, j'ai pas dit que j'avais détesté, je ne me lève pas la nuit pour ne regarder un épisode. J'avais pas complètement accroché au look du gars qui joue Punisher, j'ai encore oublié son nom.
John Bernthal.
Voilà, et je suis j'étais très très sceptique quant à sa capacité de porter une série complète sur ses épaules. Mm-hmm. Et j'étais un gros con. Voilà, faut le dire, parce qu'en fait, il est énorme, le mec. Il joue super bien, il fait passer énormément de choses. Par contre, c'est une vraie réinterprétation du personnage. On n'est pas dans le comics, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que le personnage du comics dans une série télé ne fonctionne pas, faut pas se leurrer.
Il est un peu anachronique, quoi, le côté vigilante, machin, ça passe assez mal aujourd'hui.
Et puis, c'est un mec, dans les BD dont je me rappelle, ses interactions sociales, on va dire, auraient été méga awkward à l'écran. C'est pas possible, ça fonctionne en BD, mais ça fonctionne pas dans la vraie vie, entre guillemets. On en arrive à dire que c'est la vraie vie, c'est grave, mais vous m'aurez compris.
Et donc, tu me disais qu'en gros, là, il y a un vrai traitement de tout l'aspect psychologique du personnage, les PTSD.
C'est pas que le personnage, mais c'est tout l'environnement, en fait. Donc, les personnages secondaires, les événements, etc. On n'est pas du tout sur un truc. Ça pourrait être complètement pas une série Marvel, en fait. Mmh. Ça pourrait être un énorme polar un peu violent, qui ne soit pas du tout brandé Marvel.
Un peu violent, moi j'ai entendu que c'était quand même très violent.
C'est très violent, ça dé franchement par rapport à certains trucs, j'ai pas trouvé. C'est violent sur certaines scènes, c'est fait exprès, on est d'accord. Mmh. Mais c'est pas plus violent que des trucs qui sont pas des trucs de super-héros, j'ai envie de dire. Enfin, je veux pas trop en dire.
D'accord.
Il y a des gunfights, il y a une ou deux séquences que j'ai en tête qui sont effectivement là pour marquer le perso. Il y a les 3 séquences qui sont vraiment hardcore. Mmh. Mais c'est pas des trucs genre vous allez vous planquer sous le canapé, hein. C'est juste pour marquer effectivement le personnage et marquer un événement, etc. Et ça permet d'expliquer des mécanismes chez les persos tiers, entre guillemets, ou chez The Punisher on perd Monsieur Frank Castle en personne. Mais du coup, ça va parler de dépression, de PTSD, de reconnaissance, de trahison,
le retour des vétérans, tout ça.
Ouais, mais c'est juste une toute petite partie, ça, finalement. C'est un des trucs qui est abordé, mais ça va plus loin que ça. La confiance dans les institutions, il y a plein de trucs qui sont mis en, il y a plein de classiques, entre guillemets, qui sont utilisés pour faire avancer le scénario. Mm-hmm. Mais c'est vraiment bien fait, c'est super bien filmé. J'ai trouvé ça très très propre, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le MCU, on le sait, puisque c'est au cinéma, le sait, voilà. Mais pas une fois, on parle vraiment de super-héros, tu vois. Donc, c'est complètement décorrélé de tout. Y a pas un moment où il y a une vanne en disant, tiens, on aurait pu appeler machin avec sa cape, là. Non, ça passe complètement à l'as. Donc, c'est très, très particulier. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être complètement hors Marvel. Mm-hmm. On s'en rendrait pas compte. Mais voilà. Mais prenez, si vous hésitez, en tout cas, écoutez, prenez le temps de mater 4 épisodes. Je pense que vraiment 4 épisodes, c'est, par rapport à la série, c'est parfait pour se mettre dans l'ambiance. Et je veux pas spoiler, mais le personnage secondaire le plus important du truc est vraiment bien fichu aussi. Et toutes ces problématiques sont tellement, enfin, le perso est tellement en opposition avec The Punisher que ça fonctionne très bien, quoi. Ça fait presque un, attention, je mets mes fameuses R guillemets, ça fait presque un buddy movie, quoi.
Ok, d'accord. Bon, écoute, tu me l'as survendu, là, dès que j'ai fini mes pages, je vais aller regarder ça.
Et après, tu vas m'insulter, super.
non, mais pour le coup, je trouve que le fait d'en faire un truc décorrélé du reste du MCU, c'était sans doute le meilleur calcul pour The Punisher, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est très à part et qui fonctionnait pas trop bien dans Daredevil. Je suis assez d'accord avec toi, il était un peu en décalage par rapport aux autres persos. Et là, s'il a son truc à lui, où ils vont vraiment à fond dans la psyché du personnage, ça peut être super intéressant, donc j'ai hâte de voir ça. Donc The Punisher sur Netflix, on rappelle que c'est une série qui est showrunnée par Steve Lightfoot, qui est un Britannique et qui a bossé notamment sur Hannibal, qui était déjà une série assez trash. Mm-hmm. Donc on n'est pas vraiment surpris de le retrouver sur The Punisher. Et puis on va parler d'une autre série Marvel qui, elle, a commencé sur Hulu, donc qui est le portail de streaming Hulu. De contenu. Hulu, moi je dis Hulu, on dit
ah
Hulu.
Bon, je sais pas, non, j'en sais rien. Pour moi, j'ai toujours lu Hulu, mais je l'ai jamais entendu. En fait, je réalise que j'ai jamais
entendu. Les Américains disent Hulu. Enfin bon, bref,
c'est tout à fait possible. On va dire. En fait, nous on l'a pas de toute façon.
Voilà, nous on l'a pas. Donc vous vous débrouillez pour trouver les épisodes. C'est une série qui est chapeautée par Josh Schwartz et Stephanie Savage. C'est un duo qu'on connaît surtout pour des séries ados comme Gossip Girl et D.O.C. Donc moi, c'était un truc qui me rassurait pas trop. Les Runaways, c'est un arc assez iconique des comics, qui avait été créé par Brian Kevogan, d'abord dans une première version, puis après ils ont repris les personnages un peu plus tard, ils ont relancé la saga. Joss Whedon a même eu un run sur la série, un run assez sympa avec Wilson Fisk. Et la série est quand même, la série dans les comics est assez difficile à adapter à l'écran, déjà pour plein de raisons de droit, parce qu'il y a des mutants, il y a des trucs auxquels ils n'ont pas accès en télévision. Coucou la Fox. Donc j'étais assez sceptique, et en fait j'ai regardé, donc les 3 premiers épisodes sont sortis la semaine dernière, je les ai regardés, je me suis dit tant qu'à faire pour décompresser, je vais peut-être regarder un truc cool que The Punisher. c'est assez particulier. En fait, ils ont vraiment, alors sans spoiler non plus, ils ont complètement changé en fait un élément crucial dans les comics, qui est le côté Runaways, le côté on se barre une fois qu'on a compris que nos parents étaient des super bad guys. Et en fait, dans la série télé, et je vous spoil pas grand chose, après 3 épisodes, sont toujours pas partis, en fait. Ils sont toujours chez leurs parents. D'accord. Ils sont au courant qu'il se passe des trucs, mais du coup, ça permet, en fait, non seulement de développer le relationnel avec les parents et entre les parents et les enfants, ce qui permet d'asseoir quand même un petit peu plus le background de la série. Et puis aussi, on en apprend beaucoup plus sur les parents que ce qu'on apprenait dans les comics, en tout cas au début. Ça va plus vite de ce côté-là. Donc, c'est une vraie adaptation, pour le coup. Les mecs se sont dit, OK, on va reprendre l'essence du comics, mais on va le traiter à notre manière. Et je trouve que ça fonctionne pour le moment pas trop mal. Moi qui suis un fan vraiment pur et dur des comics, je suis assez déçu effectivement de voir qu'ils en ont pas fait une adaptation littérale, mais quelque part, ce qu'ils nous offrent ici est vraiment assez sympa. Et puis la présence de Brian Kevogan à la production fait que on sait que s'ils font des choix assez drastiques comme celui justement de ne pas en faire des Runaways, ce qui est quand même un petit peu paradoxal quand on lit le titre, on sait que c'est à l'aval de Brian Kevogan, donc il a donné son input pour que ce soit quand même relativement fidèle à l'esprit de la série. Donc c'est pour le moment une bonne surprise, mais c'est vraiment une surprise, quoi. Donc c'est assez assez étonnant par rapport à ce qu'on connaissait dans les comics. Donc il y a 10 épisodes au total, donc c'est assez court et ça c'est cool, parce qu'on sait que le gros problème des séries télé Marvel, c'est souvent de s'étendre sur beaucoup trop d'épisodes. 10 épisodes, donc c'est relativement bref, et ça sera toutes les semaines à partir de cette semaine, donc le 4e sort cette semaine, et puis un épisode toutes les semaines sur Hulu. Donc moi je vous recommande. Il y a des pouvoirs, alors ils sont justement là aussi, ça fait partie des trucs qui sont assez différents des comics, c'est que dans les comics, en fait, comme ils se barrent tous ensemble et qui se retrouvent un peu traqués par tout le monde, leurs parents, la police, etc. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'en fait ils commencent à découvrir entre eux leur pouvoir. Et en fait ici ça se fait de manière isolée, chacun dans leur coin en fait, donc c'est d'accord. un peu particulier. Là aussi un traitement un peu différent.
D'accord.
Mais voilà, pour le moment ça tient la route et je trouve qu'en termes d'adaptation c'est plutôt pas mal foutu, donc j'espère qu'ils vont pas se rater et qu'à un moment ils vont quand même se barrer et qu'on va avoir des vrais Runaways, parce que pour le moment c'est un peu ridicule. Mais bon.
Je rajoute juste un truc avant que t'enchaînes sur The Punisher. Je te pose une colle. Il y a deux scènes qui sont complètement débiles dans la série. Mm-hmm. Et j'attends de voir si tu vas trouver, si tu vas tiquer sur les mêmes que moi.
Débile dans quel sens, genre, ça n'a pas de sens ou bien...
Ça, c'est stupide, je peux pas dire, sinon tu vas toujours, tu trouver, mais des séquences où tu te dis, non les mecs, non, jamais de la vie, vous êtes des Mongoliens. Ça ne se fait pas. Enfin, voilà, réfléchissez deux minutes, messieurs.
Donc voilà, The Punisher pour ceux qui veulent des trucs un peu dark, Runaways pour les trucs un peu plus légers, teen movie. Et on va faire une transition, encore une jolie transition entre la culture et la tech avec Movie Mania. Je voulais en parler en vitesse parce que je connaissais pas le site et j'ai découvert ça
un peu
par hasard sur
c'est
Discord.
Pas mal, Geekzone.
Ouais, j'ai découvert ça. J'ai chopé le lien au hasard d'une conversation sur notre Discord. Movie Mania, c'est quoi? C'est un site qui recense en fait des wallpapers entièrement dédiés au cinéma et avec la particularité de n'avoir aucun texte. Donc ça peut vraiment servir de wallpaper cool sans qu'il y ait, je sais pas moi, la liste du casting ou bien la tagline du film. Donc ça vient d'un Reddit en fait qui justement s'occupait de retravailler les affiches de films pour enlever tous les éléments de texte. Ils ont décidé de tout compiler sur un site. L'avantage du site, c'est qu'il offre à la fois des wallpapers pour desktop et pour téléphone. Et c'est plutôt bien foutu au niveau de l'interface. Si vous êtes par exemple sur des wallpapers Guardians of the Galaxy desktop et que vous vous dites tiens j'en mettrais bien aussi sur mon téléphone, vous cliquez sur la petite icône téléphone et vous allez avoir toute la série de wallpapers Guardians of the Galaxy dispo pour le format mobile. Donc c'est plutôt bien foutu. Les wallpapers sont très propres, sont évidemment HD, disponibles en plein de résolutions et tout ça est évidemment gratuit. Donc Movie Mania, on a fait une petite news sur Geekzone cette semaine et si vous cherchez des chouettes wallpapers cinéma, allez faire un tour, il y a vraiment des trucs très très cool. Et du coup on est passé dans la tech hardware truc divers et c'est l'occasion de parler de WSAD
Keyboard. WASD les WASD Keyboard.
Qu'est-ce que c'est ça?
Alors en fait c'est pas du tout nouveau, mais comme je viens d'en acheter un, j'avais envie de vous en parler.
D'accord.
WASD Keyboard, c'est une marque en fait américaine qui fait des claviers mécaniques tout bêtement, qui a la particularité de vous proposer de customiser complètement le clavier, pas le corps du clavier, mais les touches, donc ce qu'on appelle les keycaps en anglais, les petites choses qui se mettent sur le switch, sur lesquelles vous avez appuyé avec vos doigts pleins de Cheetos. Et le truc qui est hyper intéressant avec eux, c'est qu'ils ont développé des process de gravure pour faire ça avec des ultraviolets, je crois, et vous permettre d'avoir vraiment une gamme mais infinie de lettrages, de couleurs. On peut même prendre un dessin et le poser sur les touches et avoir un clavier en fait qui reproduit un dessin en fait que vous aurez uploadé sur le truc, chaque touche étant une sorte de gros pixel de votre image, si vous voyez l'idée. Et c'est vraiment un truc qui est assez rigolo à faire. Le petit problème de cette marque, c'est que les frais de port réservent vraiment les claviers au marché américain et au marché canadien, parce que ils sont pas très chers intrinsèquement pour la qualité qu'ils ont, je vais y revenir. Mais en revanche, les frais de port pour l'Europe sont abusés. Et donc pour ça, il faut surveiller un autre site dont j'ai déjà parlé, qui a déjà coûté beaucoup d'argent à pas mal de zoniens, qui est MassDrop.
Ah, MassDrop.
Parce que MassDrop, en fait souvent des opérations avec eux. Enfin, régulièrement, souvent, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas régulièrement. Et les frais de port de MassDrop sont bien plus bas que ceux de WASD en direct. Et évidemment, le prix du clavier est encore inférieur. Alors, quel est l'intérêt de la bestiole? C'est qu'en fait, ils font des claviers, alors soit avec le pavé numérique classique, soit avec ce qu'on appelle les formats TKL, donc avec le pavé numérique qui dégage, pour avoir un truc un peu plus court.
Mm-hmm.
Et moi, je m'attendais un peu à une qualité un peu inférieure à ce que toi, tu connais très bien maintenant avec mon Philco, qui est une marque japonaise indestructible.
Indestructible, je confirme. Hein,
voilà. Voilà. Et ça, Philco, c'est un peu le standard du clavier mécanique classique, j'ai envie de dire, fabriqué au Japon, avec des soudures impeccables, etc. Et WASD a réussi à faire un truc, donc c'est un classique américain, c'est-à-dire design et pensé aux États-Unis, tu vois, mais complètement fabriqué en Chine. Le produit, je le prends, je le sors de la boîte et ça ne bouge pas, ça ne craque pas, ça ne gigote pas, il y a rien qui moufte là-dedans et c'est une impression de solidité, de lourdeur que j'avais pas eu depuis très longtemps avec un clavier du genre. Je le connaissais, mais ils avaient déjà fait un premier modèle, donc ça c'est les WASD 2.0, c'est leur nouvelle gamme qui a déjà quelques mois, voire quelques, ça fait peut-être, c'était peut-être l'année dernière, j'ai un doute sur la date de sortie exacte. Mais moi j'avais un Code Keyboard qui est la même base. Code Keyboard c'était fait pour une autre marque, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'était la même base, mais c'était la version 1.0, je l'avais acheté il y a quelques temps et c'était déjà très très bien et j'étais déjà agréablement surpris, mais il y avait encore des trucs qui j'étais pas complètement convaincu, on va dire, par rapport à un Philco. Là voilà, si vous voyez des promos passer, vous pouvez foncer. Évidemment la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a pas vraiment d'AZERTY. Sauf qu'en fait vous pouvez le faire l'AZERTY comme vous voulez, puisque comme vous pouvez customiser toutes les touches, si vous décidez d'en acheter un sur leur site, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le clavier, prendre le modèle. Ils ont des modèles ISO, c'est-à-dire avec la grosse touche entrée. Je répète pour ceux qui ne connaissent pas, mais les modèles américains sont ce qu'on appelle des modèles avec le standard ANSI, c'est la touche entrée plate.
Ouais, que j'aime pas du tout.
Voilà, il y a plein de gens qui détestent, dont Fasquille.
Voilà.
Moi, tous mes claviers sont comme ça maintenant. Ça prend effectivement un petit peu de temps pour s'habituer, mais après, ça pose pas vraiment de problème. En revanche, tu vois, tu rates pas les autres touches, donc finalement, tu t'y fais vraiment très vite. Mais du coup, on peut prendre un clavier anglais ISO, par exemple, et le customiser pour faire un clavier AZERTY. Mais les frais de port vont pas vous faire rire. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je le rajoute carrément dans la liste des trucs que je recommande régulièrement. Et puis ça vous fera des options un peu moins chères que mes claviers hors de prix coréens et japonais. Et on vous préviendra si on voit repasser des promos sur Mazdrop, puisque maintenant qu'on l'a tous acheté, on est déjà pas mal sur la zone d'avoir craqué pendant cette promo. Enfin, bon, c'était pas vraiment une promo, c'est un group buy, un achat groupé, et ça revient moins cher. Les frais de port sont moins chers. Donc si ça repasse, on vous fera signe. Maintenant, on sait que ça vaut le coup.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux. C'est de la merde.
Et c'est l'heure du rant. On va parler d'un truc dont tout le monde se fout et en fait on ne devrait pas.
Alors la neutralité du net. Hein.
Ouais.
Tout le monde dit en ce moment que c'est un problème américain qui concerne donc uniquement les Américains et j'ai envie de dire oh vraiment,
oh really,
seriez-vous stupide à ce point-là? Donc déjà, en deux mots, de façon absolument trop succincte, mais j'ai pas le temps d'en faire plus. La neutralité du net, c'est quoi? C'est d'empêcher les fournisseurs d'accès de vous découper votre accès en fonction de ce que vous faites avec Internet. C'est un raccourci, mais c'est un peu ce qui.
C'est un très bon résumé.
Voilà, et en gros, vous imaginez qu'un jour, t'as le droit d'aller sur Geekzone, mais ça sera plus cher pour aller sur Netflix sur ton abonnement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'abonnement Netflix, hein, je parle bien de votre abonnement à votre fournisseur d'accès.
C'est le retour des abonnements à la carte.
Exactement. Et vous connaissez déjà, parce que vous l'avez un peu d'une certaine manière avec votre téléphone mobile. Il y a des fois des quotas, etc. Bon, c'est pas par application, mais imaginez que ça soit par application, c'est exactement ce qui risque de se passer si la neutralité du net explose aux États-Unis. Pourquoi c'est grave si ça arrive aux États-Unis? C'est que ça sera répercuté sur les services dans le reste du monde, puisque je vous rappelle que les trois quarts des trucs que vous utilisez viennent des États-Unis, messieurs dames. Ne l'oubliez pas. Donc ça risque de ne pas nous faire rire, et si vous voulez des exemples de ce que ça peut donner, il existe en fait des parallèles assez simples à faire avec donc toujours les offres mobiles. Il y a au Portugal des gens qui ont fait des parallèles en disant « Regardez, il n'y a pas de neutralité du net au Portugal !» et en fait, vous racontez les conneries, les mecs, c'est l'Europe, donc ils ont la neutralité du net exactement comme nous. En revanche, sur les services mobiles, il y a des mecs qui ont fait des packages avec par exemple 5 gigas de data, mais tu peux acheter une option à 5€ en plus et on va te décompter à zéro tout ton Snapchat, tout Facebook, etc. Ça ne rentrera pas dans tes data. Donc tu as ce genre de package supplémentaire. Et si on étend le principe à votre connexion même fibrée, ça sera exactement le même problème, le même principe. Et aux États-Unis, c'est ce qui leur pend au nez si jamais ce truc-là explose. Il faut savoir que donc nous avons un certain Ajit Pai qui est le mec qui s'occupe de la FCC qui prend ces décisions-là.
Ouais. Qui est vraiment, lui, a décidé de foutre le bordel. Hein.
Ah, mais lui, en fait, en plus, c'est un mec qui était conseiller pour Verizon. Le mec, il prend des chèques de chez les ISP depuis le début de sa carrière.
Merci Trump.
Et le mec, en plus, alors je suis désolé, on avait dit pas le physique, mais il a une tête à claque, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, le mec. Il cherche les baffes.
J'ai failli cracher mon café sur le clavier.
Allez, je suis désolé, mais le mec, c'est pas assez incroyable. Et il y a eu des super trolls sur lui, des mémés. Il y a plein de trucs rigolos. Alors super, on rigole. Il se prend plein d'attaques, mais en attendant, si ce truc-là passe, ça sera lui qui va rigoler, puisque je vous confirme que je veux pas connaître l'échec que lui et ses petits copains sont en train de prendre. Mais
m'étonnes.
C'est assez violent. Donc voilà, il faut que ce truc-là ne passe pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Bah pas grand-chose, malheureusement, parce que c'est les Américains qui doivent appeler leurs sénateurs, etc., pour motiver un petit peu tout le monde à aller rentrer dans l'art de la FCC. Et évidemment, les votes et les annonces se passent pendant Thanksgiving. Le vote lui-même sera en décembre, mais la présentation du truc s'est fait cette semaine, comme par hasard pendant la semaine qui va être la moins violente aux États-Unis entre guillemets. Comme c'est bizarre. Donc, ouais. On va suivre ça de près, mais en tout cas, sachez que c'est hyper important et que c'est pas parce que ça se passe aux US que ça ne vous concerne pas.
Et je voulais rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la neutralité du net, John Oliver avait fait un très très bon condensé de 20 minutes sur le sujet dans Last Week Tonight. Alors c'est en anglais, c'est pas sous-titré, mais bon, vous vous démerdez. Et où il explique justement toute la problématique des accès à la carte, de ce que ça peut impliquer, et puis surtout de tout ce qui se passe en coulisses et comment tout ça est ultra politisé. Et c'est les lobbies qui font leur taf et qui essaient de faire passer le truc. Donc c'est 20 minutes et vous avez un résumé pour le coup vraiment vraiment complet de la problématique de la neutralité du net, et peut-être que ça va faire tilt et que vous allez vous dire eh merde.
Ah, sachant que par exemple dans les trucs qui sont en route, c'est d'autoriser Comcast à bloquer purement et simplement BitTorrent.
Super.
Parce que BitTorrent, c'est que pour les pirates, évidemment. Mm-hmm. Donc, mais comme les gens sont débiles, ils pensent, les gens qui ne sont pas au courant pensent que c'est vrai et disent, oh bah oui, ils ont bien raison, ils ont le droit de faire ça. Voilà. Et c'est la porte ouverte au tout, hein, voilà. Vous connaissez l'expression?
À tous les abus.
Donc, non, il faut essayer de suivre ça de près et les aider comme on peut. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Si vous en avez, go forum.
Et c'est la fin de ce 27e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab, pour une nouvelle sélection d'actu. Bon week-end, Caf.
Bah oui, bon courage à toi. Je crois savoir que tu as quelques pages à boucler. Je suis tout cœur avec toi.
Je suis parti pour la nuit, là. D'ailleurs, après, normalement, je devrais avoir un peu la paix et revenir un peu sur Geekzone dès la semaine prochaine. Ça va faire du bien.
Écoute, je suis avec toi. J'ai moi-même des choses hyper intéressantes à faire.
Allez, à la semaine prochaine. Bon week-end à tous.
À la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve? Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt? Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Faskill aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr.